À voix nue, Bruno Meyerfeld, cette semaine avec
Sébastien Salgado, photographe, et avec ma femme, on plante beaucoup d'arbres.
Quatrième épisode, Démiurge et démon. Bonsoir Sébastien Salgado.
Bonsoir Bruno.
Alors, avec la main de l'homme, nous avons abordé hier votre heure de gloire, de lumière. J'aimerais que nous parlions aujourd'hui de certains épisodes plus difficiles, plus sombres ou plus contrastés de votre vie. Sébastien Salgado, avec votre épouse Lélia, vous avez eu deux fils. D'abord Giuliano, cinéaste, né en 1974, et puis Rodrigo, né en 1979. Un enfant atteint de trisomie 21. Alors, comment avez-vous combiné votre activité de photographe, voyageur à travers le monde, et la maladie de votre fils?
Écoute, on a parlé dans quelques séjours antérieurs, dans notre interview, de ma femme Lélia. Je suis marié à une grande dame. Ma femme, c'est quelqu'un exceptionnel. On a eu cet enfant trisomique. C'est un enfant qui vit avec nous tous les jours. On n'a jamais mis cet enfant en interne dans aucune institution. Il va à l'institution. Il va le matin, il revient l'après-midi. Il est avec nous. Il est notre fils. Il est collé à nous. Il était même avec moi dans un reportage. Une fois, je faisais un grand reportage. J'ai fait un livre sur les cafés. Je l'amenais dans un des reportages pendant 3 semaines en Chine. Et c'était une merveille, tu vois. Et c'est un fils qui nous donne beaucoup de plaisir. C'était très difficile au début. Personne n'est préparé pour avoir un enfant avec un handicap perpétuel, parce que c'est un handicap qui sert pour toute sa vie, il n'y a pas de correction. Au début, on mesure cet enfant avec tous les autres enfants. Mais à partir d'un moment, on trouve la solution. Et la solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer profondément. Et c'est ça qu'on a fait avec notre fils. Notre fils nous donne un plaisir immense. C'est un artiste. Rodrigo, c'est un peintre incroyable. À tel point qu'on est en train de créer le musée des vitraux à Reims. Ils ont choisi le travail de Rodrigo pour créer 16 vitraux avec ses dessins. Je suis sûr que si ma photo résiste après ma mort, elle résistera quelques années. Mais les vitraux de Rodrigo, peut-être qu'ils resteront là pendant des centaines d'années. Et tu vois, et c'est incroyable. Aujourd'hui, on souffre beaucoup plus encore parce qu'on est en train de perdre notre fils. Il est en train de perdre sa mémoire. Il part à l'école, quelquefois il n'arrive pas, il se perd. À tel point qu'on a trouvé un bip GPS qui est sur lui pour qu'on voit où il est, pour qu'on va aller chercher. Quelquefois on arrive là-bas, il y a déjà la police avec lui. Aujourd'hui, pour aller à l'école, il faut qu'on trouve une personne pour l'amener parce qu'il ne sait plus faire le chemin de l'école. Il ne sait plus où les frigos, où trouver les choses. Mais il est tellement heureux. Il est tellement bon. Il est tellement fantastique qu'il nous a illuminé la vie. Et peut-être, une grande partie de mes photos, elles étaient influencées par notre fils, Rodrigo. Lélia, c'est elle qui l'a vraiment enlevé, parce que moi, pour réaliser mes images, j'étais dehors des mois et des mois de l'année. Et pour moi, le plus grand plaisir que j'ai, c'est d'y aller. Il y a un tout grand plaisir que j'ai dans la vie, c'est les jours que je prends les derniers taxis pour aller au dernier aéroport pour retourner chez moi, pour revenir vers ma communauté où notre fils est.
Alors, à la fin des années 1990, Sébastien Salgado, c'est aussi le temps des premières critiques sur votre travail. Votre livre Exode, publié en 2000, qui traite des migrations humaines, est attaqué par une partie de la presse. L'essayiste américaine Susan Sontag, que vous avez bien connue, dénonce alors une esthétisation de la misère et une inauthenticité du beau. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, parfois très rudes, de votre travail?
Je n'ai rien à répondre. Ceux qui ont à répondre. Tu vois, regarde bien. Je suis venu d'un pays sous-développé. Je suis venu d'une partie du monde, tu vois, qui elle est aussi belle. Les gens sont aussi dignes que les gens d'ici. Et quand j'ai photographié les Africains, quand j'ai photographié les Asiatiques, les Latino-Américains, je l'ai montré dans l'ère de dignité. Je n'ai pas de surnu, aucune lumière. Je n'ai pas comme... J'ai été critiqué une fois au journal Le Monde par quelqu'un qui disait que j'ai créé des studios pour photographier la misère. C'est complètement de la folie, de le mensonge total, tu vois. Et simplement, dans ma photographie, j'ai montré qu'on peut être beau n'importe où. J'ai jamais vu une critique sur les photos de Richard Avedon, d'Anna Leibovitz, qui photographie les côtés riches du monde, les riches, la belle lumière. Personne n'a jamais critiqué cette belle lumière qu'ils ont utilisée autant que moi. Mais ils m'ont critiqué parce que j'ai photographié les gens qui les donnent problème de culpabilité. Ils ont la culpabilité, pas moi. Je photographie mon côté du monde sans aucune culpabilité parce que c'est mon côté du monde. Je montre la beauté des gens. Qu'est-ce que c'est la beauté des gens? C'est pas la beauté physique, c'est pas les habits, c'est leur dignité. Ça, je l'ai montré dans mes photos. J'ai montré les belles lumières. Mais pourquoi les belles lumières? Il faut seulement être au nord de la planète. La belle lumière, elle est belle partout. La planète, elle est belle partout. Une photo se passe. Il faut la montrer, l'action, mais il faut la montrer les contours de l'action, la contre-forme de l'image qui forme l'image. Il faut montrer la planète comme elle est. Et c'est drôle parce que tous les journaux de France publient mes photos, publient mes articles, font des commentaires, mais pas Le Monde. Pourtant, c'est mon journal. Je lis Le Monde chaque jour. Mais vous savez, quand j'ai quitté Magnum, j'étais attaqué pour beaucoup de photographes de Magnum parce que c'est moi qui ai mené le principal des revenus de Magnum. J'ai parti, ça donnait un vide à Magnum. Il s'agit d'une grande révolte d'une partie de photographes de Magnum qui sont mis avec des groupes intellectuels et qui ont essayé de me descendre, me finir comme photographe. Mais j'ai fait mon travail.
Alors, Sébastien Salgado, il y a vos détracteurs et puis il y a vos admirateurs. Parmi vos admirateurs, il y a Lula, le président de gauche du Brésil. À votre sujet, il a dit: Salgado est un chasseur de lumière dans un monde de ténèbres. Mais des ténèbres, vous en avez vu autant que de lumière, Sébastien Salgado. En 1994, un nouveau cap est franchi lorsque vous vous rendez au Rwanda, alors en plein génocide. Vous assistez au massacre des Tutsis, puis à la fuite mortifère de centaines de milliers de Hutus au Zaïre. Vous en rapportez des images insoutenables. J'aimerais que vous nous racontiez aujourd'hui cet épisode de votre vie, et en particulier cette fuite des Hutus à travers la forêt.
Ah, c'était un moment terrible de l'histoire de l'humanité. Je faisais mon travail sur les migrations. Et donc, quand s'est passé le génocide en Rwanda, bien sûr, il fallait que je sois là, parce qu'on a eu des millions de personnes qui ont quitté ce pays. Mais ce n'était pas seulement le Rwanda, parce qu'on peut dire, ah, c'est barbare ce qu'on a vu là-bas, tu vois, tous ces génocides, tous ces millions, de centaines de milliers de personnes assassinées. Mais c'est passé la même chose en Europe. Je vis exactement la même chose. C'est passé dans l'ex-Yougoslavie. La même violence. Et c'est un moment que j'avais honte d'être un être humain, de voir qu'est-ce qu'on est. violent. Tu vois, qu'est-ce qu'on est un animal d'une agressivité, d'une férocité extrême. Et ce que je vis m'a fait mal, m'a fait vraiment mal. Combien de moments j'étais au Rwanda, je voyais tellement de choses terribles que je mettais mes appareils par terre et je pleurais. Je mettais un coin pour pleurer. Et j'ai commencé à être malade par tout ce que je vis. On a un ami médecin, ici à Paris, un grand ami à nous, qui, je suis allé le voir, j'ai été attaqué par tous mes staphylococques, j'avais des ganglions, des furoncules partout dans mon corps. Je vais voir cet ami, il m'a fait, quand je faisais des relations sexuelles avec Lélia, je n'avais pas de sperme qui sortait de mon corps, j'avais du sang qui sortait de moi. J'ai dit, ma prostate est morte. Je peux voir ce médecin, il me fait tous les examens. Il dit, Sébastien, ta prostate, elle est parfaite. Ta santé, elle est bonne. Ce qui est en train de passer, tu es en train de mourir. Tout ton corps est en train de mourir. Tu vois des choses tellement terribles qu'il faut que tu arrêtes. Je vis vraiment des choses qui impossibles, tu vois.
J'aimerais vous montrer à nouveau deux ou trois photos que vous avez prises à l'époque. J'aimerais que vous nous les commentiez. D'abord, cette première.
Elle est faite en Tanzanie, dans un camp de réfugiés, le début d'un camp de réfugiés. C'est quand les premiers réfugiés... Regarde, j'étais au Brésil, j'ai travaillé au Mozambique, j'ai travaillé déjà sur le projet d'immigration. J'étais à São Paulo, je devais voler le soir de São Paulo à Johannesburg, de là rentrer au Mozambique pour photographier. Lélia, elle part en avant. C'était exactement le jour qu'Ayrton Senna est mort dans un accident de voiture. J'ai vu l'accident. Lélia, elle part avant moi à Paris, dans le même jour. On était ensemble à São Paulo. Et moi, le soir, je pars à Johannesburg. Quand j'arrive à Johannesburg, mon nom a été appelé à l'aéroport. Dans le haut-parleur, je parle en portugais, autofalante, le haut-parleur de l'aéroport, je viens, il dit, écoute, il faut que vous appelez ce numéro à Paris. C'était le numéro de Lélia, j'étais très préoccupé, elle est chez nous. J'appelle, et là, elle a dit, Sébastien, ne pars pas au Mozambique, tu pars au Rwanda, parce que c'est commencé un génocide au Rwanda. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer au Rwanda. Immédiatement, j'ai changé mon billet. En place de voler à Maputo, j'ai volé à Nairobi. Comme ce projet, je faisais ensemble avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je vais au bureau du Haut Commissariat à Nairobi. Ils me mettent dans un avion. Et fin d'après-midi, j'atterris déjà en Tanzanie où se formait un des plus grands camps de réfugiés au monde. C'était les premiers millions de réfugiés qui sortaient de Rwanda. Et cette image représente pour moi ça. On voit cette maman qui a son enfant sur ses jambes, dans ses bras, et que l'enfant que la regarde avec une totale confiance à sa mère et qu'on regarde autour, que la détresse. On n'a pas un camp de réfugiés encore, on commence à former des gens entassés partout. Une lumière incroyable, parce que les lumières en Tanzanie, elle est incroyable. Et là, cette image représente pour moi cette liaison profonde, cette alliance qu'il y en a entre cet enfant et sa mère.
Une deuxième image que je voulais vous soumettre, une image insoutenable de massacre. Cette fois, je crois au Rwanda.
C'est au Rwanda. Quand on était dans ces camps, et on était proche de la rivière Akegaha, qui partage le Rwanda et la Tanzanie, et qui suit et qui tombe dans le lac Victoria. Il y a un pont qui sépare les deux pays. Je suis venu, j'ai trouvé les guérilleros, Tutsi, qui se battaient contre les Hutus. Et j'ai parlé au gars, il a dit, écoute, On domine maintenant le territoire du cirque Galice. Si vous voulez venir avec nous, je dis, je viens avec vous. Et je dis, mais il faut une voiture, on n'a pas de voiture. J'ai trouvé quelqu'un qui avait une vieille Land Rover. Je l'ai louée avec les chauffeurs locaux, je l'ai payé un bon argent. Il est venu, on a passé le pont. Et ils m'ont amené jusqu'à Kigali. Écoute, c'était un voyage de terreur, de la frontière de la Tanzanie jusqu'à Kigali, à peu près 150 kilomètres. C'était 105 kilomètres, 150 kilomètres de mort, comme cette image
Où l'on
où tout
voit.
le monde est assassiné, des gens qui fouillaient, qui sont en train de partir. C'était des Tutsis qui essayaient de fuir.
On voit des cadavres dans une voiture, par terre.
Un cadavre par terre, c'était une grenade qui était jetée ici et qui tout le monde était tué, tout. Mais Bruno, au bord de la route, où on arrêtait, on rentrait dans les plantations de bananes, dans une plantation de canne à sucre, des corps partout, décapités, tués. C'était la barbarie la plus terrible qu'on puisse imaginer.
Vous vous rendez ensuite au Zaïre, voir, suivre ces colonnes de Hutus fuyant. J'aimerais vous montrer cette troisième photo. On y voit des enfants, de très jeunes hommes, assis le long d'un chemin de fer au milieu de la forêt. Racontez-nous.
Une grande partie des réfugiés rentrés en Tanzanie, une partie au Burundi, une partie en Ouganda, une grande partie au Zaïre. Ils ont concentré à Goma, principalement, à la frontière des Rwanda et du Zaïre et du Congo, et l'ancien Zaïre. Une partie a réintégré, a retourné, mais une grande partie, à peu près 700 000 personnes n'ont pas voulu venir. Ils avaient peur de venir et se mettre à l'armée Tutsi. Ils avaient peur d'être tués. Ils ont disparu. Ils ont disparu dans la forêt congolaise. Et pendant plus de 6 mois, on ne savait pas où ces gens étaient. Et un jour, j'étais appelé par Parimat et Olivier Royan, qui était le rédacteur en chef à ce moment, dit: Sébastien, les gens sont, on a, ils sont en train d'arriver à Kisangani, à plus de 500 kilomètres de Goma. Ils sont en train d'apparaître à Kisangani. Je pars immédiatement. J'arrive à Kisangani. Et ils n'étaient pas dans la ville, parce que la ville était tenue par une guérilla pro-Tutsi. Ils ne les permettaient pas d'approcher, ils étaient dans les villages environnants. Il avait un vieux tronc que les HCR a fait fonctionner la locomotive qui était arrêtée depuis un certain temps, qui a mis en place des wagons remplis d'aliments et portés à ces gens. Et les hauts commissariats des Nations Unies qui avaient organisé ça m'a permis d'être dans ces troncs. Et j'ai parti dans ces troncs. J'arrive dans un village, les troncs déchargent, les troncs retournaient immédiatement parce que c'était une région soulevée. Il avait beaucoup d'instabilité, beaucoup d'armes, beaucoup d'assassinats autour. C'était complètement instable, la région. Et j'ai dit, je ne pars pas, je reste. J'ai resté. Je suis pas parti dans les troncs. Et j'ai photographié pendant 2 jours là. On a au bord de ce chemin de fer que des enfants sans père et sans mère, tu vois. Tout était mort. De 700 000 personnes qui ont parti, c'est arrivé ici à peu près 180 000 à 200 000 personnes. Mais dans un état terrible, il y a eu beaucoup de bagarres entre eux parce que les troupes. Les forces armées rwandaises, ces forces Hutu, qui étaient armées et qui sont finies pour se battre entre eux, qui ont tué beaucoup de monde. Ces gens qui ont attrapé des infections terribles, on avait des petites coupures sur les jambes que tu convoyais, qui s'avaient transformées dans des blessures horribles. C'était l'enfer. J'ai pu faire mes photos. À la fin de la deuxième journée, j'habitais chez l'instituteur. L'instituteur est venu vers moi, il faut, Sébastien, il faut que tu t'enfouis. Parce qu'il y a des rumeurs dans la ville, qu'il y a un blanc ici qui photographie, qui est riche, qui a des appareils photo. Ils vont te tuer. J'ai dit, mais comment je vais faire pour m'enfuir? J'étais au moins 30 km du prochain camp où il y avait des gens de haut commissariat des Nations Unies. Il a dit, je vais trouver une bicyclette ce soir avec un garçon. Mon fils a une autre bicyclette. En deux bicyclettes, sur une, tu mets ton matériel. Sur l'autre, tu te mets derrière. Et le lendemain, à 4 heures du matin, j'ai quitté et on a passé. Il y en avait, quand on a dépassé l'espace où il y avait les réfugiés, il y avait des corps assassinés partout. C'est que la guérilla autour, les groupes armés prenaient des hommes qui croyaient que c'était des Hutus, ils les descendaient, les amenaient dans la bourse, les tuaient. Et on a passé avec personne à 4 heures du matin au lieu de ça. Vers 7 heures du matin, on était en train d'arriver dans l'autre camp des réfugiés. Tu vois? Et j'ai pu y aller. Mais laisse-moi te dire, la guérilla a poussé ces gens de retour, n'a permis pas qu'ils arrivent à Kisangani pour être, recevoir une assistance. Il les a poussés de retour à Goma. Ils ont pu trouver un seul. Tous étaient assassinés, tous étaient tués. Donc on a perdu plus de 700 000 personnes dans ce mouvement. En arrivant côté de Kisangani et au retour vers Goma.
Sébastien Salgado, au cœur des ténèbres, face à cet enfer, vous l'avez dit, vous posez parfois votre appareil photo et vous pleurez. Y a-t-il des photos qu'alors vous n'avez pas prises ou que vous vous êtes refusé à prendre?
Ah, il y a plein de photos que je n'ai pas prises. Écoute, pour prendre une photo dans n'importe quelle situation, il faut voir une autorisation. Et tu sais, j'ai pas besoin d'avoir une autorisation tacite, une autorisation écrite. Tu sais, par la personne qui est en face, tu peux les photographier ou pas. Certaines personnes veulent se faire photographier. Certaines personnes viennent faire ton appareil, ils viennent parler à ton outil comme s'ils parlaient en micro. Ils veulent se faire photographier. Ils veulent montrer la détresse pour laquelle ils sont, pour que d'autres ne souffrent plus la même détresse. Et d'autres ne veulent pas. Et d'autres, on ne peut pas les faire. Si la personne n'autorise, on ne peut pas les faire. Il nous faut une certaine autorisation, mais il faut sentir qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. C'est très difficile, parce qu'on est tout seul. Vous savez, un photographe photographie avec une ligne éthique. L'éthique, ce n'est pas une paroi où tu peux se situer en plusieurs niveaux, c'est une ligne que tu ne peux pas la dépasser, tu ne peux pas être avant, tu vois. Et tu es seul pour prendre ces décisions, tout seul, dans un univers terrible, des choses terribles qui passent autour de toi. Il faut que tu prennes les décisions, mais il faut que tu la prennes, parce que pourquoi tu es là? Parce que tu es parti de ta société. Les photographes, c'est le miroir d'une société. Tu vois, on est là parce qu'on a une presse, on est là parce qu'il faut donner à voir. On est là parce qu'il faut informer. On est là parce que les organisations humanitaires nécessitent des images pour trouver des ressources pour y aller à nouveau. Donc, on est un outil de la société. Et on est là pour ça.
Vous avez dit dans une interview à l'époque, Sébastien Salgado, l'image révèle la maladie du photographe. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à l'époque?
Pas exactement la maladie du photographe. Écoute, une fois j'ai photographié, c'est une communauté des Indiens dans les montagnes de l'Équateur, et j'ai attrapé une hépatite. Je n'avais pas d'argent pour retourner à Paris, me traiter et retourner là-bas, donc il fallait que je sois là-bas, que je me guérisse là-bas. Il fallait que je photographie, et j'ai photographié malade. Et je me rappelle qu'en rentrant à Paris, en éditant mes photos, au moment que j'étais ces photos, j'étais aussi malade qu'au moment que j'étais malade que j'ai photographié. Et donc, on apporte dans soi une intensité tellement forte à la photographie que quand j'étais au Rwanda et que je faisais ces photos, quand j'étais au Congo, quand j'étais en Tanzanie, quand je rentrais chez moi pour éditer, j'étais ces photos en pleurant. Je pleurais parce que c'était tellement de souffrance, c'était tellement dur des choses que je vis là-bas, que ça répétait exactement la même chose. Donc, ce n'est pas qu'on apporte une maladie, c'est qu'on apporte l'intensité de tout ce qu'on avait au moment qu'on voit la photographie. Je me rappelle parfaitement la vitesse que j'ai fait cette photo, l'ouverture de mon diaphragme. Et je me rappelle les odeurs, je me rappelle tout ce qui s'est passé ici. C'était une grande partie de ma vie.
Sébastien Salgado, c'est aussi à cette époque que vous changez d'apparence. Vous n'êtes plus ce photographe moustachu, hirsute, avec de longs cheveux. Vous vous rasez la tête. Est-ce qu'il faut y lire une symbolique particulière, une volonté de tourner une page?
Oui, complètement. Et la volonté, c'était de raser tous les poux, tous les bestioles que j'avais dans ma barbe, dans mes cheveux, que j'avais pas de l'eau pour me laver. Tu vois? J'ai voyagé dans ces voitures de Médecins Sans Frontières avec mes cheveux tout roulés, plein de poux, parce qu'on passait 10 jours sans se laver, il n'y avait pas d'eau ni à boire. Les jours que j'ai pris la décision de raser ma tête avec un demi-verre d'eau, je lavais ma tête, mon visage, j'avais l'impression que j'étais la personne la plus propre du monde. À partir de là, j'ai plus laissé mes cheveux pousser parce que je me sens tellement propre. J'ai découvert une chose fantastique, c'est qu'avec la tête rasée, je passe la main sur ma tête, je touche ma tête. Et quand on a des cheveux, on ne touche pas la tête, on touche les cheveux. Et donc, pour moi, c'était des choses très importantes.
Sébastien Salgado, cet épisode traumatique au Rwanda et au Zaïre vous amène à un changement radical dans votre vie et dans votre travail. Vous allez désormais fuir la mort, fuir l'horreur, pour vous concentrer sur la vie et sur la beauté du monde, la nature, les peuples indigènes. Mais de cela, nous parlerons dans notre dernier épisode, demain. Alors, à demain, Sébastien Salgado. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Laurent Macchetti, réalisation Guillaume Baldi, une série de Bruno Meyerfeld, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.